Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui n'ont pas trop l'habitude. En tout cas, soyez les bienvenus. Tout à l'heure, en saluant les frères et les sœurs, quelqu'un m'a dit, passe un bon culte. Et puis la personne m'a répondu, m'a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon culte? Est-ce que ça dépend de ceux qui sont sur l'estrade? Un bon culte, c'est lorsqu'on s'offre au Seigneur, n'est-ce pas, les uns et les autres, notre culte raisonnable. Alors, je ne suis pas de ceux qui prêchent Noël à Pâques et Pâques à Noël. Et donc, comme c'est la fête des rameaux, je vais parler de la fête des rameaux aujourd'hui. D'accord ? En octobre 1898, je vais faire le prof d'histoire ce matin. L'empereur roi d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, allié de l'Empire ottoman, est en visite à Jérusalem. Est-ce que certains parmi vous sont allés déjà à Jérusalem? Alors, il y en a certains, un certain nombre. Il y a encore d'autres personnes qui pourront faire ce voyage. Et pour permettre la venue de l'empereur roi Guillaume II, et le sultan va construire une voie de chemin de fer et une gare. Il va ouvrir une brèche dans les remparts qui existent encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as mis la photo. Tac. On va voir ça. C'est une photo d'époque. Hein. Voilà. Voilà, celle-là. Je ne sais pas si. Peut-être la seconde, je l'ai mis en plus grand, je crois. Voilà. Donc, on est près de la porte de Jaffa, Jérusalem, cette porte qu'on voit sur le côté. Et donc, vous voyez, c'était une porte en angle droit. Et donc, la calèche de l'empereur ne pouvait pas passer en angle droit. Donc, le sultan a détruit une partie de la muraille pour permettre au cortège de l'empereur de passer, de pouvoir rentrer dans la ville de Jérusalem. Donc, cette brèche existe encore aujourd'hui à Jérusalem. Elle est coupée en deux, maintenant c'est par les voitures passent par là pour entrer dans la vieille ville de Jérusalem. La voie de chemin de fer, la gare qui a été construite pour l'empereur sont toujours là, les fossés sont toujours évidemment bien comblés et il vient inaugurer, cet empereur, l'église du Rédempteur, c'est l'église luthérienne qui est au cœur de la vieille ville. Voilà. Et voici ce qu'en dit un rapporteur français qui est légèrement critique. Vous savez qu'en 1870, on avait perdu la guerre face aux Allemands. Et là, il y a un Français qui regarde ce cortège qui passe. L'empereur et roi est à Jérusalem. Les Turcs ont fait de leur mieux pour lui faire une grande réception sur la route de Jaffa. On avait dressé des mâts pavoisés, quelques arcs enguirlandés et des fausses portes. La première, celle des Juifs allemands en style de synagogue, saluait le prince au nom de l'Éternel. Une inscription en hébreu disait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous vous saluons de la maison de l'Éternel. » Ces applications des textes bibliques faites par des Juifs à l'empereur protestant rappellent l'historien Joseph, reconnaissant le Messie dans la personne de Vespasien. Un peu plus loin, une autre fausse porte, un arc en style rococo oriental, souhaitait la bienvenue en allemand. Il était surmonté d'une couronne impériale avec une croix au sommet, au grand scandale du mufti qui n'a pas réussi à la faire enlever. Vous savez que comme c'était sous domination turque, donc musulman, il ne fallait pas que les croix soient au-delà des mosquées. Et puis, une troisième porte, fausse porte, figurait un arc mauresque flanqué de deux minarets, décor d'opéra comique. Voilà, ça c'est le français qui parle. Et la verdure fanée, enfin toutes les fleurs qu'on avait mis pour l'empereur, saupoudrée de poussière, n'a pas tenu devant le vent d'est qui souffle avec persévérance depuis 8 jours. Alors voilà comment on réceptionnait un roi en 1898, donc il y a 12 ans. Oui, 16 ans avant la Première Guerre mondiale. Les évangiles nous relatent la venue d'un autre roi quelques 2000 ans en avant. Il ne s'est pas avancé par la porte de Jaffa, telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Cette porte est à l'ouest. Mais il s'avance par la porte est, la porte opposée. Jésus s'avance par la porte est. C'est la porte que dessert la route qui va de Jéricho à Jérusalem, en passant par le mont des Oliviers et par deux petits villages, Bethphagé et Béthanie. Alors la fête de Pessah va avoir lieu, et à cette occasion, on rencontre des pèlerins qui voyagent en nombre et qui s'empressent joyeusement de se rendre à Jérusalem, parce que Pâques, c'est une fête joyeuse, c'est une fête de famille, c'est une fête qui réunit toutes les tribus ensemble qui montent à Jérusalem. Le peuple juif, des paroles ont été dites ce matin, se rappelle la main du Seigneur qui les délivre de l'esclavage du pays d'Égypte. Alors moi, je vous propose de lire l'entrée de Jésus à Jérusalem dans l'Évangile selon Luc. Vincent nous l'a lu dans l'Évangile de Matthieu. Je vous propose de le lire dans l'Évangile selon Luc. Donc chapitre 19, verset 28 jusqu'au verset 48, vous allez pouvoir le lire avec moi en même temps. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » Vous lui répondez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Et après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'ils s'avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente des monts des Oliviers. Et alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, les chefs de prière, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs des peuples cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Amen. Seigneur, viens nous parler au travers de ta parole, Seigneur. Viens nous montrer le roi qui vient toujours à nous encore ce matin. Seigneur, viens nous montrer le roi tel qu'il est. Saint-Esprit, révèle-nous Jésus encore, son cœur, son amour, son humilité. Seigneur, on veut encore ouvrir nos yeux pour voir dans la foi ta présence au milieu de nous. Amen. Jésus avait décidé de monter à Jérusalem. Il avait décidé de monter à Jérusalem. Il savait ce qu'il l'attendait. Il savait qu'il allait être livré aux païens, qu'il allait être moqué, qu'il serait insulté et qu'on cracherait sur lui, qu'on le fouetterait et qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais cela ne l'avait pas empêché de dire « Allons, montons à Jérusalem ». Il l'avait dit aux disciples, mais cela avait été pour eux un discours incompréhensible et obscur. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 31, nous le rappelle. C'était caché aux yeux des disciples. Ne jetons pas la pierre aux disciples en disant « Vraiment, ces disciples sont au-dessous de tout. Ils ne comprennent décidément rien. » Ils n'avaient pas la fin de l'histoire. Nous, on l'a. Et cette fin de l'histoire, ils ne l'avaient même pas imaginée, ils ne l'avaient même pas pensée. Ça ne pouvait pas se terminer à la croix. Le Saint-Esprit n'avait pas encore renouvelé leur cœur. Et un cœur non renouvelé ne comprend rien aux choses de Dieu. Les disciples s'attendaient à quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Et même certains avaient cru comprendre que le royaume de Dieu était imminent. Que Jésus allait enfin restaurer un règne visible sur le trône de David, l'ancêtre de Jésus. Quelque temps avant, les fils de Zébédée, accompagnés de leur maman, mère juive, qui avait de l'ambition, demandent « Pourrions-nous nous asseoir à tes côtés, l'un à ta droite, l'un à ta gauche, lorsque tu rentreras dans ton règne ?» Ça sera l'occasion pour Jésus de les enseigner à nouveau au sujet du service, de la véritable autorité. Il les enseigne non pas simplement Jean et Jacques, fils de Zébédée, ils enseignent tous les autres disciples, hein, parce que les autres disciples sont offusqués de ce que Jean et Jacques demandent à Jésus d'être assis à droite et à gauche. En fait, ils avaient été coiffés au poteau. Ils auraient voulu être aussi à la place d'eux pour demander la même chose. La vraie grandeur, c'est celle du service. Et Jésus leur rappelle. Il ne sera pas de même parmi vous. Ce ne sera pas pareil que dans le monde. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais pour l'instant, ce n'était pas encore le moment de Jésus de rentrer dans son règne. Et des disciples sont encore dans leur certitude. Quand Jésus va rentrer à Jérusalem, la foule va l'acclamer et il sera roi. Jésus est résolu dans son cœur. Il marche devant la foule, nous dit le texte. C'est lui qui prend les devants. Il marche devant la foule. Il prépare soigneusement son entrée. Il envoie deux de ses disciples chercher un ânon avec des consignes précises. Vous trouverez un ânon, vous le détacherez, vous me l'amènerez. Et quand les maîtres demanderont « Pourquoi vous l'amènerez ?», vous lui direz « Le Seigneur en a besoin ». Comment Jésus a-t-il su qu'il y aurait un tel ânon dans le village ? On ne sait pas, le texte ne nous dit rien à ce sujet-là. Pourquoi les maîtres de l'ânon les laissent-ils partir avec leurs biens ? Et là encore, le texte ne nous le dit pas. Pourquoi ? Si on vient chez vous, vous demandez votre voiture, et si on dit « un tel en a besoin », vous vous dites « mais qui c'est ce type qui en a besoin ?» Hein ? Mais là, rien du tout. Est-ce que là, la réputation de Jésus l'avait précédé, parce que Jésus était un homme de bien, n'est-ce pas ? Il était un maître respecté, un rabbi avec une certaine réputation et avec une certaine renommée. Ce que nous voyons ici, c'est quand même, c'est le contrôle de Jésus sur les événements. Cet événement ne le dépasse pas. Jésus même coordonne cet événement. Il choisit son entrée, le minutage et même le moyen de locomotion. Ce ne sera pas le cheval. Le cheval est pour la guerre. Chaque fois que vous voyez une référence au cheval dans l'Ancien Testament, c'est toujours le cheval pour la guerre. Ce ne sera pas le chameau. Le chameau, c'est le poids lourd de l'époque. Hein ? C'est le poids lourd où on amène les marchandises, où on fait des longs voyages. Ce sera l'âne. L'âne, c'est-à-dire le compagnon serviteur du quotidien. celui que l'on monte lorsqu'on fait des petits trajets, celui que l'on attelle avec l'attelage, mais interdiction de l'atteler avec un bœuf, c'est interdit par la loi. Celui que l'on peut charger au-delà du raisonnable pour le transport de marchandises. L'âne, le serviteur du quotidien. On est étonné parce que jamais auparavant, Jésus n'avait fait quoi que ce soit pour promouvoir une manifestation publique. Et bien au contraire, chaque fois qu'on avait voulu le faire roi, il s'était toujours esquivé. Après la multiplication des pains, lorsque la foule a été nourrie, la foule voulait le faire roi, nous dit l'évangile de Jean. Et Jean et Jésus est passé. Il a fui la foule qui voulait le faire roi. En fait, Jésus n'est jamais prisonnier de la foule. Jamais prisonnier de la foule. Il n'en est pas le jouet. Ici, ce n'est pas la foule qui le déclare roi. C'est lui qui affirme qui il est. Et ceci de manière délibérée. La royauté, c'est son identité. C'est son être essentiel. Et c'est cette identité qui est au centre de la semaine pascale. Dans tout l'évangile, on se demande qui est Jésus. Quel est cet homme qui commande au vent? Jamais on n'a vu un homme parler comme lui. Et lorsque quelqu'un, les démons veulent dire « Tu es le Saint, le Fils de Dieu », Jésus dit « Arrête-toi, ne parle pas, ne dis rien ». Mais là, au début de la semaine pascale, Jésus va affirmer qui il est réellement. Et il est roi. Et il est roi. Et quelques jours plus tard, il affirmera encore de manière plus solennelle. Devant Pilate, celui qui représente le pouvoir romain dans toute sa splendeur, son autorité, sa force, sa violence, Pilate lui demande « Es-tu roi ?» Jésus lui répond « Tu le dis de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate esquive la question et il dit « Moi, je ne suis pas juif, je n'ai rien à voir avec toutes vos problématiques de théologie juive, ce n'est pas mon rayon. » Et il demande à Jésus « Qu'as-tu fait ?» Et Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Et Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Et écoutez cette belle confession de Jésus sur lui-même. Tu le dis, je suis roi. Tu le dis, je suis roi. Et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate va esquiver encore un coup en essayant de se réfugier dans le domaine de la philosophie. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, en hébreu, ce n'est pas de la philosophie, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est solide, c'est ce qui on peut faire confiance. Jésus, lorsqu'il dit « Je suis la vérité », il veut dire « Vous pouvez avoir confiance en moi. Je n'ai pas de faux semblants, je n'ai pas une apparence et un fond autre que mon apparence. Je suis la vérité. » Jésus est roi, mais il n'est pas roi à la manière des hommes. Il y a eu un roi, dans le second livre des rois, un homme qui s'appelait Jéhu. On dit qu'il était l'homme le plus pauvre, ça c'est une blague. Hein. Parce que s'il a eu, il n'a plus eu. Hein. Voilà. Excusez, c'était pour vous faire voir si vous suivez. Et l'homme le plus riche de la Bible, vous savez qui c'était ? C'est Jéthro. Voilà. C'est archi connu, je ne la referai plus. Hein. Jéhu reçoit la visite d'un prophète envoyé par Élisée et qui lui dit qu'il allait être roi. Les partisans de Jéhu lui disent « Qu'est-ce que t'a dit le prophète ?» Il m'a dit que je serai roi. Et à ce moment-là, les partisans de Jéhu enlèvent leurs vêtements et les mettent sous les pieds Jéhu et Jésus, c'est un peu pareil. Sous l'épée de Jéhu. Mais Jéhu ne va pas être comme Jésus, vous savez. Jéhu va prendre son char, pas un ânon. Il va aller au-devant des rois d'Israël et de Juda. Et il va les trucider. Leurs enfants. Jéhu est un homme de violence. Était un roi de violence. Mais notre Jésus, à nous, n'est pas un roi de violence. Jésus vient sur un âne, le petit d'une ânesse, et il accomplit ainsi deux paroles prophétiques. Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, victorieux, humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et un autre psaume, la seconde parole prophétique. Luc va en faire des deux, va en faire qu'une seule, vous allez voir. Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alors je ne résiste pas à la tentation de demander à Chantal de nous le dire en hébreu. Alors lève-toi, qu'on puisse t'entendre. Dis-le fort. Oshiana, 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 francisé, ça donne quoi ? Hosanna, Hosanna. Alors nous, souvent, on le confond avec Alléluia, mais Oshiana, Hosanna, ça veut dire sauve Seigneur, accorde le salut maintenant. Luc façonne les deux versets en un seul. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Oshiana. Jésus est le roi qui vient sauver son peuple. Il n'est pas le roi qui vient le dominer, il vient le sauver. Sa royauté est juste, victorieuse et humble. Sa royauté ne s'impose pas par la violence, elle se démontre par la justice et par son humilité. Jamais le christianisme a été si loin de l'enseignement de Jésus quand il a voulu s'imposer par la force ou par un pouvoir brutal. Pardon Seigneur. Il en est de même de manière individuelle. Vous qui êtes croyants, Jésus a-t-il forcé les portes de votre cœur ? Vous a-t-il défoncé à coups d'épaule la porte de votre cœur ? Jésus l'a frappé à la porte. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il lui ouvre ce matin, je souperai avec lui. Jésus ne va jamais nous brusquer. Oh, parfois, il va nous mettre dans des situations où on sera peut-être obligé de dire oui. Mais jamais il va nous brusquer. La foule crie de manière joyeuse. Hosanna, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Les autres évangiles, et Vincent nous en a parlé tout à l'heure, parlent des branches de palmier que les gens agitent. La branche de palmier évoque encore là la libération et le salut. On retrouve des petites pièces de l'époque des Maccabées. Maccabées. C'est une famille de juifs, de prêtres juifs qui ont libéré Israël de l'envahisseur grec, Antiochus Épiphane, etc. Et on retrouve des petites pièces de monnaie où il y a l'effigie d'un des Maccabées avec des branches de palmier. Jésus n'est pas le sauveur de violence, il est le sauveur qui amène la paix. Luc est le seul des quatre évangiles qui parle de la paix dans le ciel. Lorsque Jésus est né, il y a eu aussi une grande manifestation. Une grande multitude d'anges adressent des louanges à Dieu. au milieu des bergers qui sont là étonnés. Et que disent les anges ? Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Et là, la foule, au moment de cette fête des rameaux, elle dit paix au ciel. De la naissance à sa mort, Jésus est le prince de la paix. C'est lui qui réconcilie ciel et terre, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le prince de paix. Alors bien sûr, cela affecte certains. Fais les taire. Tous ces gens qui ne comprennent rien, on le sait, tu n'es pas roi, alors fais les taire. Jésus leur répond, si eux se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Alors comment comprendre ce que Jésus vient de dire ? Si eux se taisent, les pierres crieront. Alors personnellement, je le mets en lien avec ce que dit Paul lorsqu'il affirme que la création entière soupire après la libération. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 19. Cet après-midi, Christophe nous amènera dans une étude biblique à ce sujet-là. La création aussi crie « Hoshiana, sauve Seigneur !» Jésus est le roi de la création a été faite par lui, pour lui. Jésus continue son chemin. Il est désormais sur le mont des Oliviers. Du mont des Oliviers, ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à Jérusalem, lorsque vous êtes sur le mont des Oliviers, vous voyez en contrebas la vieille ville de Jérusalem. C'est une photo splendide. Là. C'est là qu'il faut prendre la photo quand on est à Jérusalem. On imagine Jésus qui arrive à ce moment-là, qui a cette même vision de Jérusalem. Et il voit le temple en face. Aujourd'hui, on voit la mosquée d'Omar, mais à l'époque de Jésus, on voit le temple. Et Jésus se met à pleurer sur cette ville. Car il connaît ce que cette ville va devenir, ce que cette ville va subir. Il pleure par compassion. Il pleure par compassion. Il y a vraiment une tristesse compassionnelle dans les paroles de Jésus, dans cette prière de Jésus, dans cette lamentation de Jésus. Parce que c'est vraiment un nouveau type de roi. Il ne va pas dire « c'est bien fait pour elle, ils m'ont refusé ». Il ne dit pas, eh bien, Jérusalem n'a que ce qu'elle mérite. Ils m'ont refusé. Les larmes de Jésus démontrent la valeur qu'il porte aux hommes. Les larmes de Jésus démontrent la valeur qu'il porte à la ville de Jérusalem et aux habitants qui y habitent. Il démontre à ce moment-là le cœur même de Dieu qui veut qu'aucun des méchants périsse. Mais qu'ils se repentent et qu'ils arrivent à la vie, qu'ils se tournent vers lui. C'est ça le cœur de Dieu. Nous aussi, nous avons des occasions manquées dans nos vies, n'est-ce pas ? Jérusalem a raté l'occasion de recevoir Jésus comme son roi. Est-ce que nos routes de vie, même en tant que chrétiens, ont toujours été droites ? Est-ce que nous n'avons pas vécu des occasions ratées ? Où nous n'avons pas été dans l'obéissance. Est-ce que nous n'avons pas parfois attristé le Saint-Esprit ? Je ne connais personne qui n'ont pas vécu des occasions ratées. Mais la grâce de Dieu, frères et sœurs, la grâce de Dieu permet de trouver des nouvelles voies et des nouvelles opportunités. Et c'est ça la grâce de Dieu. Quand je rate un embranchement dans ma vie, il y aura un autre embranchement qui me permettra de revenir à l'endroit où le Seigneur voulait pour moi. Et lorsque je regarde en arrière ma vie, malgré tous les embranchements que j'ai ratés, eh bien je vois une ligne droite. Et je suis à l'endroit où le Seigneur veut que je sois aujourd'hui. Et je serai à l'endroit où le Seigneur veut que je sois. Ça ne veut pas dire que je suis un automate. Ça ne veut pas dire qu'il me conduit comme une voiture est conduite par quelqu'un. Ça veut dire qu'il attend de moi que je lui dis, Seigneur, indique-moi la voie. Montre-moi la voie que je dois suivre. Cela veut dire que si je me trompe de voie, eh bien, à un moment donné, eh bien, je me tourne vers la repentance pour dire, Seigneur, pardon, j'ai trompé, je me suis trompé de voie. J'ai suivi un mauvais conseil. J'ai péché contre toi. Et je peux revenir. La repentance est toujours une bonne nouvelle, mes amis. C'est jamais une mauvaise nouvelle. Lorsque Dieu nous amène à la croix, c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on dépose devant le Seigneur notre péché, c'est une bonne nouvelle, parce que le Seigneur s'en charge. La grâce de Dieu permet de trouver de nouvelles voies et de nouvelles opportunités, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le Seigneur appelle. Aujourd'hui, il est temps de le suivre. Si tu as fait un mauvais embranchement, aujourd'hui, il est temps de revenir sur la bonne voie. Si tu t'es trompé de voie, aujourd'hui, tu peux revenir vers le Seigneur. Aujourd'hui, il est temps de lui dire, « Tu es roi, je veux être ton sujet. » Et enfin, le cortège arrive devant le temple d'Hérode. La foule est dense et il y a des marchands un peu partout. Eux sont nombreux et ils ont saisi les bonnes opportunités pour faire des bonnes affaires. Jésus se met à les chasser. Ces marchands qui dénaturent le lieu et le but du temple. Mon temple sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et par cette déclaration qu'il s'approprie, Jésus revendique non seulement le titre de roi, mais aussi sa divinité. Ma maison sera une maison de prière. Quand on ouvre notre cœur au Seigneur, vous savez, notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand on ouvre notre cœur au Seigneur, eh bien, le Seigneur veut parfois faire le ménage pour nous faire entrer vraiment dans le but de notre vie. Je voudrais ouvrir quelques pistes d'application pour nos vies. La première, c'est la question du besoin de Dieu. Quand je serai devant le Seigneur, je lui poserai deux questions. Depuis que je suis chrétien, jeune chrétien, il y a deux questions qui me taraudent l'esprit. Et je vais faire l'impasse sur la deuxième question, ce sera pour une prochaine fois. Mais ma première question, ce sera celle-ci. Seigneur, est-ce que tu as besoin de nous ? Est-ce que tu as eu besoin de moi ? Bon, tu as eu besoin d'un âne. Vous l'attendiez, celle-là, hein ? Durant une petite partie de ma vie, j'ai entendu, j'ai moi-même donné quelques messages qui avaient pour teneur « Dieu a besoin de vous ». Vous savez, avec les grandes images, avec le doigt pointé lorsqu'il fallait faire un appel à la... Comment on dit ? Quand on appelle les gens à l'armée. Circonscription, la conscription, voilà. Hein ? Dieu a besoin de vous. Et par exemple, j'ai pu entendre dire que Dieu a créé l'homme et la femme parce qu'il lui manquait quelqu'un à aimer. Ou encore, Dieu a besoin de moi, alors je vais le servir volontairement. Dieu a besoin de moi, donc je me lève avec ma volonté et ma force et je vais le servir. Par la suite, j'ai appris qu'il n'y a pas de nécessité en Dieu. Il se suffit à lui-même. Dieu n'a besoin de personne et ni de rien pour être Dieu, n'est-ce pas ? Ni pour faire ce qu'il veut. Paul dit que Dieu n'a besoin de quoi que ce soit. Alors je me rends compte que cette question n'est peut-être pas la bonne question. Est-ce que tu as eu besoin de moi ? Est-ce que tu as besoin de nous, Seigneur ? Est-ce que c'est une bonne question, en fait ? Servir Dieu, mes amis, mes frères et sœurs, ce n'est pas la réponse à un besoin de Dieu. Servir Dieu est la réponse appropriée au but de ma vie. Pourquoi est-ce que j'ai été créé ? Pourquoi est-ce que vous avez été créé ? Pourquoi vous êtes là, sur la terre ? Pourquoi est-ce que vous êtes mécanicien? Pourquoi est-ce que vous êtes kinésithérapeute? Pourquoi est-ce que vous êtes psychologue? Pourquoi est-ce que vous êtes à la retraite? Pourquoi, etc., etc. Quel est le but de votre vie? Quelle est votre ambition dans votre vie? Qu'est-ce qui va mieux répondre à ce que Dieu veut pour vous? Nous servons Dieu, les uns et les autres, dans le domaine où Dieu nous a placés, parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Il n'y a pas d'autre réponse. Être chrétien, c'est répondre à une vocation. Être croyant, c'est répondre à un appel. D'être humain, et aussi de chrétien. Dieu nous a créés pour sa gloire. Est-ce que vous sentez que vous êtes en phase avec ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous dites « je sers Dieu parce que Dieu a besoin de moi » Ou est-ce que vous dites « je sers Dieu parce que c'est mon appel, parce que je suis et j'ai été créé pour ça » Vous voyez un petit peu la différence? De l'un, je viens avec ma force et ma volonté, et Dieu a un besoin, oh, « ok, j'arrive !» Je viens t'aider, Seigneur. Heureusement que j'étais là, hein, sinon tu n'aurais pas pu faire tout ce que tu avais à faire. Et d'un autre, je réponds à ce pourquoi j'ai été créé. Vous avez été créé, nous avons été créés pour servir Dieu, à l'endroit où nous sommes. Une seconde application. Ouh, et ça n'a pas suivi, là. C'est pas grave. Seconde application, c'est Dieu revendique la royauté sur nos cœurs. Dieu revendique la royauté sur nos cœurs. Où est-ce que vous en êtes de cette royauté sur vous? Où est-ce que nous en sommes de la royauté de Dieu sur nous? Est-ce que vous vous contentez, Jésus m'a sauvé, il est mon sauveur? Ou est-ce que vous comprenez que le salut n'est simplement qu'une démarche pour arriver à dire « Jésus, tu es mon Seigneur ». Une troisième application. Il y a eu ce cortège où tous les disciples étaient là, où ils étaient heureux, ils étaient extraordinairement épanouis parce qu'ils voyaient en fait Jésus acclamé comme roi, qui vient dans son règne, etc. etc. Il y a eu un magnifique cortège. Mais il y a eu un autre cortège peu après. 23, verset 27 de Luc. Comme ils l'amenaient, s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi, c'est lui qui marche devant, Jésus marche devant encore. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Il y a eu un autre cortège. La vie chrétienne, elle est faite de victoires apparentes, de belles victoires. Et parfois, nous traversons dans des vallées où on n'a pas l'impression qu'il y a de la victoire, n'est-ce pas? Qui connaît ça? Qui connaît ça? Qui connaît ça? Et pourtant, le Seigneur est là dans les deux cas, n'est-ce pas? Dans le cortège victorieux où on chante et on crie, on agite nos palmes, où on crie « Hosanna, Hosanna ». Et puis là, dans ce cortège-là, le Seigneur aussi nous amène. On porte notre croix, non pas les épreuves, mais le fait d'abdiquer notre propre volonté. Il y a ce cortège-là où le Seigneur nous amène aussi à le suivre. Amen. Je vais m'arrêter là et puis je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à te suivre. Quel que soit le cortège, c'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui marches devant nous. Seigneur, nous voulons te donner les clés des portes de nos cœurs. Nous voulons te donner, Seigneur, ce que tu revendiques, la royauté sur nos cœurs. Seigneur, nous voulons répondre à la vocation que tu nous as adressée en tant qu'être humain, te servir, servir à ta gloire. C'est pour ça que tu nous as créés, pour servir à ta gloire. Seigneur, ce matin, nous voulons répondre favorablement les uns et les autres, et aussi en tant qu'Église. Nous réjouir de ton salut, nous réjouir de ton cœur, parce que tu es le prince de la paix. Toi qui fais la paix entre le ciel et la terre, entre notre Père et nous-mêmes. Toi qui es l'unique médiateur. Mais Seigneur, nous voulons ce matin encore renouveler, Seigneur, ta revendication. Nous voulons t'offrir les clés de notre cœur à nouveau. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es le roi, nous le reconnaissons. Sois le roi de mon cœur. Sois le roi de nos cœurs. Seigneur, viens faire le ménage dans nos vies pour que notre cœur soit entièrement à toi. Viens faire le ménage dans nos vies pour que, pas simplement que nous soyons guéris, bénis, tout ça c'est que des conséquences. Viens faire le ménage sur nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment servir à ta gloire. Seigneur, on veut le faire ce matin. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, sers-toi de nous, là où tu nous as placés, dans notre profession, dans notre famille, dans notre voisinage. Sers-toi de nous pour manifester ta gloire au travers de nous, au travers de notre vie offerte à toi, Seigneur. Amen. Amen. J'invite la louange à venir. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, vraiment, je l'invite aussi à venir à lui dire avec vos propres mots, « Seigneur, sauve-moi, viens me sauver. Là où l'endroit où je me trouve, viens me sauver. Hoshiana, sauve-moi, Seigneur. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous allez dire cette prière, si vous dites cette prière, le Seigneur sera là à côté de vous et il l'entendra et il vous prendra et il vous sauvera. Il fera de vous une nouvelle créature. Il y aura un nouveau commencement, une nouvelle vie, un nouveau départ. Alors n'hésitez pas, faites cette prière. Pas simplement parce que je le dis, mais parce que vous avez été saisis par la vérité de la parole. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à venir vers lui, à dire, Seigneur, sois mon sauveur, sois mon roi, conduis-moi. Amen. Est-ce que tu connais Oh, comme j'aime Jésus ?
Non.
Non, pas du tout ? Alors je vais le chanter a cappella ? Non. Je suis né pour te louer. Très bien. Vincent, je te laisse la place aux annonces.
Je suis né pour te louer, je suis né pour te louer.
Tu n'es pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour ta obéira ta voix. Je